Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Aggredisci.
Ma stata fatta. Che faccio?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattifisso. Papa fattifisso.
Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui vous fait prendre le son pour des visions et qui ausculte l'actualité des films projetés en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le studio avec Julien. Salut Julien. Avec Raphaël.
Salut Sophie.
Didier.
Bonjour.
Et Olivier.
Bonjour tout le monde.
Sans oublier derrière la vitre, Nico qui réalise tout ça. Salut Nico.
Salut Nico.
Depuis l'aquarium.
Depuis l'aquarium en direct. Encore une semaine bien dense. Alors on va surtout parler de quelques films. On va parler du Procès Goldman de Cédric Kahn, des Feuilles mortes d'Aki Kaurismäki. On dira un mot aussi du livre des solutions, de Vision. Raphaël viendra nous en parler, de Yann Gosselin. Et puis un petit mot sur Un avenir radieux de Nanni Moretti. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Non, je ne pense pas. Et L'arbre aux papillons. Si tu veux nous en dire un mot, Didier.
J'en dirai un mot avec
tout
plaisir.
À l'heure. Alors, ben, c'est parti. Et non, les critiques ne sont pas des juges.
Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
Goldman innocent !
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis.
Révolutionnaire dans l'âme.
Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster?
Oui.
Et d'assassin?
Non, certainement pas.
Et pour vous, il est innocent, vous ne vous posez pas la question.
On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats.
Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux?
Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros!
Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur.
Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste?
Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme.
Eh bien, c'est une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui passent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête.
Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit!
Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits! Tous les droits!
Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.
Le procès Goldman de Cédric Kahn. Alors, j'ai laissé exceptionnellement la bande-annonce dans son intégralité. Puisque, comme le dit Cédric Kahn, dans l'inconscient collectif, le cinéma, c'est l'image, mais dans ce cas précis, c'est un film à regarder, mais surtout à écouter. Et effectivement, quand j'ai écouté la bande-annonce, pour une fois, j'ai pas été tentée de la couper. Alors, vous êtes deux à l'avoir vu, Julien. Julien, est-ce que tu veux commencer?
Oui.
Julien, Didier?
Ouais. Ben je vais commencer. donc, le procès Goldman, ça va, c'est on va dire, une... Il va parler de ce procès qui a eu lieu en 1976. Donc c'est le deuxième procès, donc c'est en appel, voilà. Et il est accusé de 4 braquages, dont un dernier braquage où 2 pharmaciennes ont été assassinées. Donc lui, il se déclare coupable pour les braquages, mais pas pour l'assassinat. Ça, c'est pour... le cadre, mais ce procès a été, comme on va dire, monté en épingle, en tout cas a été très très célèbre à l'époque, parce que, on va dire, la gauche, l'extrême gauche s'est mis à soutenir Goldman, qui était d'origine juive.
Et qui était lui-même d'ailleurs d'extrême gauche.
Voilà, qui était d'extrême gauche aussi. Donc du coup, voilà, il y a eu un soutien, on va dire, à la fois populaire et des milieux de gauche. Et c'est aussi, on apparaît un personnage, on va dire, public, le jeune avocat Georges Kegeman, voilà, qui est connu aussi, voilà, pour d'autres raisons. En tout cas, tout ça fait que ce procès est à l'époque un des grands moments, on va dire, de l'histoire de l'époque, de ces années-là, des années 70. Et Cédric Kahn donc va s'attaquer à ce procès là, cela. Alors il l'a fait, vous allez voir, le film est assez formidable parce qu'il va, bah alors il a fait un gros travail de recherche, hein, ça se voit dans le film, hein, que il a essayé de reconstituer ce qui s'est passé. Il l'a fait, on va dire à l'épure, je dirais, c'est-à-dire que il n'y a pas de musique dans le film. Donc c'est vraiment la voix, des paroles, enfin voilà. C'est filmé avec plusieurs caméras, c'est jamais ennuyeux, alors ce qui pourrait être, c'est un film de procès quand même, mais il y a un rythme, il y a une densité dans le film qui est assez incroyable. Et comme tu le dis toi-même, ça commence et on n'est pas lâché, quoi. Mmh. Le film, il te happe, et rien qu'à la parole, à la voix, alors... Après, derrière, il y a des acteurs formidables. Hein. Il y a Harry Wordsalter, je le dis un peu mal son nom, mais il est d'origine belge, qu'on a peut-être découvert pour certains aux rencontres dans le film Girl, qui jouait le père, donc un formidable acteur. Il est incroyable dans le film. Et Arthur Harari, que là, moi, j'ai découvert en acteur sur ce film-là en particulier, qui est le compagnon de Justine Trier. Mm-hmm. Hein, il était dans les films de Justine Trier.
Et co-scénariste.
Mais il est réalisateur. Il est réalisateur lui-même. Il a fait Onoda, qui est aussi un film qui a été primé, qui a eu le prix Louis Deluc. Enfin, voilà, etc. Mm-hmm. C'est un formidable réalisateur et un formidable acteur aussi. Donc, du coup, tout est fait, en fait, pour passer un moment de cinéma incroyable. Donc je vous invite à y aller. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Qu'est-ce que, en fait, Cédric Kahn, il a voulu placer le spectateur à la place du juré, et on est vraiment, on est là, on juré. C'est pour ça qu'il y a pas de musique, pas de flashback, etc. On suit le procès à la suite, à part une ou deux scènes qui se passent ailleurs, mais c'est presque c'est pas un plan séquence, mais ça démarre dans le tribunal, et ils vont au tribunal, et après on n'en sort plus.
Pour aller dans ton sens, dans ce que tu dis, j'ai lu une interview de Cédric Kahn où il dit: on a l'impression que les gens sont avides de tous ces codes-là, les flashbacks, les musiques, les sons partout, les montages, sons, tout ça, bref. Et on se rend compte, quand on enlève tout ça, que les gens sont très contents de ne pas être accompagnés, que les gens peuvent s'accompagner tout seuls face à un film. C'est juste de la soustraction, mais on est tellement habitué à avoir du matériel gavé d'informations qu'en fait, ça devient presque stylistique de ne pas en avoir autant.
Mmh. Oui, et puis le style, il le met aussi dans l'image. Hein. C'est un format 4 tiers, donc qui permet d'être vraiment qui prend vraiment les visages et les personnages. Non, il y a vraiment une travail de recherche qui fait que ce film est un petit bijou de cinéma. Mmh. Peut-être Didier veut
oui, avec plaisir. Moi, je vais en rajouter.
Oui, vas-y.
C'est également un film à la fois magnifique en termes de cinéma pur et à la fois un film historique de mémoire, puisque ça a quand même été à l'époque un événement assez considérable, que ce procès qui a quand même duré, enfin, ce procès en appel qui a pratiquement duré 6 mois quand même, hein. C'était pas rien. Donc, et d'ailleurs, la presse en est fait l'écho, et heureusement, parce que le Cédric Kahn explique qu'il n'y a pas de minute du procès, curieusement. On lui a dit, bah, écoutez, non, à l'époque, les greffiers ne prenaient pas les témoignages. Voilà, ils notaient juste les choses essentielles.
Les greffiers étaient déjà disparus. Voilà.
Et donc, en fait, l'histoire a été reconstituée à travers les articles de journaux, qui ont été incroyablement nombreux. Et toujours selon Cédric Kahn, c'est réel, hein, il n'a rien inventé, mais c'est une sorte de montage des deux procès. Dire le premier procès n'est pas du tout médiatique parce que Pierre Goldman n'est pas connu. Et quand il va être en prison, il va écrire un livre qui s'appelle « Souvenirs obscurs d'un juif né en France », qui va avoir un retentissement assez énorme, en particulier dans les milieux de gauche, et qui va lui valoir le soutien des intellectuels de gauche, alors des gens quand même comme Sartre, Beauvoir, Simone Signoret, et j'en passe, et des meilleurs. C'est pas... Et c'est d'ailleurs à cause de ça que ce nouveau procès à Amiens peut se tenir, parce que sinon, il serait resté croupir en prison. Et donc, on assiste au procès d'un homme, à la fois... très fort et déterminé, et à la fois psychologiquement extrêmement fragile. Et ce mélange des deux, alors on parlait de bipolarité tout à l'heure, on n'en parlait pas à l'époque, mais c'est presque ça, fait que on est fasciné par cette personnalité qui par ailleurs ne lâche absolument rien. On entend dans la bande-annonce que tu as diffusée, voilà, moi je suis innocent parce que je suis innocent, et puis vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça changera rien. À ça vous n'y pourrez rien changer.
Il a un sens de la formule assez incroyable d'ailleurs.
Extraordinaire. Et puis, avec le recul maintenant, on voit un peu ce qui se passait, c'est-à-dire Maître Kijman qui le défend, qui plus tard va défendre Guy Debord, qui sera l'avocat des cinéastes de la Nouvelle Vague, et j'en passe. Et de l'autre côté, les partis civils représentés par Maître Garot, qui n'était pas tout à fait un homme de gauche à l'époque, hein, partisan de la légitime défense, partisan de la peine de mort, etc. Donc tous les ingrédients étaient vraiment réunis pour en faire un procès historique que Cédric Kahn a vraiment su reconstituer. Donc tu le disais, là c'est une mise en scène, il n'y a aucun artifice, c'est une mise en scène à l'os. Et on est en immersion totale pendant 1h50 dans ce procès. Et on en sort quand même, je dirais, presque fatigué. Et sociologiquement, c'est aussi intéressant parce qu'on voit aussi comment la population de l'époque osait dire des choses qu'on ne pourrait plus dire devant un tribunal maintenant. On a une témoin, par exemple, qui dit « Oui, mais quand je l'ai vu dans la rue, j'ai tout de suite pensé que c'était un crouille. » Alors, on disait ça dans un tribunal, quoi. Il est indéniable que la police a eu des attitudes racistes, d'autant plus que Pierre Goldman avait énormément d'amis antillais, ça plaît pas. Il y a énormément de choses comme ça qui sont rappelées dans le film et dans cette mise en scène là, qui est vraiment au cordeau. Et je pense que nous, spectateurs, on est tendus comme si on était vraiment dans le prétoire, avec des textes complètement affûtés et des comédiens, tu l'as dit, Julien, exemplaires. Et au-delà de tout ça, je termine là-dessus, le procès Goldman, ça signe aussi la fin d'une époque, ça signe la fin du romantisme révolutionnaire qui est mort. Et d'ailleurs, on a un de ses amis témoins argentin, je crois, qui le président dit « Mais pourquoi vous êtes revenu en France ?» Tout ça, il dit « Voilà, moi j'étais pour la lutte armée et tout, mais tout ça, maintenant, c'est derrière nous, c'est terminé. » Donc c'est vraiment un des grands films de cette rentrée pour moi.
Et c'est marrant ce que tu dis sur effectivement, quand tu parles du racisme de la police, enfin, il y a des choses qui résonnent quand même pas mal aujourd'hui, je trouve, qui sont très d'actualité. Contemporaine. Et du coup, voilà, qui n'ont pas changé ces questionnements-là. Donc du coup, c'est très intéressant.
Comme ça devient, ça revient cycliquement, c'est peut-être même lié à notre propre nature humaine. C'est à voir à Aubenas en ce moment, et samedi également, dans le cadre du festival du cinéma en Vivarais, il y aura au domaine du Rouret à Gros-Pierre à 13h30 une séance spéciale avec Daniel Picale, qui est président de la chambre honoraire de la cour d'appel de Versailles. Et donc si vous voulez justement discuter, ça peut être un éclaircissement intéressant. On continue, on est toujours un petit peu à gauche.
Pukkasin puhelinnumeron.
Miksi et kysy numerotiedustelusta?
En tiedä nimeä.
Se kieltämättä vähän haittaa.
Qui Coris Maki, donc on reste effectivement le cœur à gauche dans une entrée, alors là pour le coup musicale, la musique est très très prégnante. Didier Olivier, vous avez vu Les Feuilles Mortes?
Oui, j'ai vu ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je le dis d'entrée, je ne suis pas très cultivé en Aki Coris Maki. Je ne me souviens d'avoir vu que Le Havre avec Daroussin. M'avait beaucoup, beaucoup plu.
André Wilms aussi.
Et, ouais, et qui était déjà un film sur les damnés de la Terre. Donc effectivement, on reste à gauche, on passe de la gauche française à la gauche finlandaise, pour le coup. On est ici et maintenant, dans la mesure où tout le long du film, on entend la radio, et qu'à la radio, on a des nouvelles du front russo-ukrainien. Donc on est maintenant, ici. Ce qui n'apparaît pas à l'image, puisqu'on dirait plutôt une image filmant un milieu des années 50. Oui, soit intemporel, soit années 50-60, enfin quelque chose de ce genre-là.
Ce qui est relayé aussi par la musique des années... Pardon. Alors, ce qui est relayé aussi par
bien
beaucoup
sûr.
De musique des années 50-60.
Exactement. Et alors, on parlait marxisme tout à l'heure hors antenne, et j'ai trouvé que là, on en avait une illustration... parfaite. Moi, j'invite tout le monde à lire ne serait-ce que le premier chapitre du Manifeste communiste, bourgeois et prolétaire. On parlait aussi d'actualité permanente de certains problèmes. Bon, ben, on y est. Et c'est pour ça que, malgré le côté un petit peu vintage du film en apparence, le fait qu'il soit marqué ici, pointé ici, ben, c'est pas gênant du tout, parce qu'on gagne une espèce, effectivement, d'immuabilité, quoi, des problèmes. Alors pourquoi illustration du marxisme? Parce que on sait très bien qu'au chapitre premier, bourgeois et prolétaire, on a une définition des rapports de classe, des rapports de production, rapports dans lesquels toute chose est marchandisée. C'est-à-dire que le capitalisme a pour fonction la production et la consommation. Mais l'enfer capitaliste, c'est que tout devient objet de production et de consommation, y compris les gens. Et là, on est dans l'Ubac, je dirais, de la vallée du capitalisme, c'est-à-dire la part d'ombre. On est effectivement du côté des exploités, des rejetés, des possibles déchets de la société. C'est d'ailleurs thématisé. Je voudrais pas trop dévoiler, comme ils ont fait au Masque et la Plume. C'était désagréable de voir après au cinéma ce qu'on m'avait raconté dimanche soir à la radio. Quoi. C'est
un peu. Ne jamais écouter les critiques.
Non, c'est très pénible. Non, c'est pour ça que j'essaye de rester un peu général en disant qu'on a une illustration magnifique du capitalisme, sa version sombre. Si on voulait l'adrer, celui de l'ostentation, etc., j'invite peut-être à revoir, vous savez, Sans filtre, là, de Ruben Östlund, qui avait fait The Square aussi, où on voit le côté délirant, tuné à l'extrême. Quoi. Ben voilà, c'est l'adré et l'ubac d'une même vallée, celle du capitalisme. Donc tout est réifié, y compris l'environnement. On a des plans comme ça juxtaposés. Les gens paraissent se déplacer de manière figée, un peu sur des rails. Et là où ça devient assez terrible, c'est que même les mots, les échanges, les dialogues sont réifiés. C'est-à-dire que les dialogues fonctionnent un peu comme des interrupteurs. On allume, on dit quelque chose, on n'est pas bien sûr que ça fasse sens, puis on éteint, l'autre il allume en face, et voilà. Et on a l'impression que les mots peinent à prendre sens. Et alors justement, il y a un moment, donc tu y venais déjà, il y a un moment où les mots commencent à reprendre un peu de sens, c'est dans les chansons. On a vu ça avec une poétesse locale, donc Mireille Fargy et Caruso, ouais, qui truffent ses poèmes de passages de chansons. Et les chansons
permettent
de donner du sens aux mots. Et puis, surtout, les mots commencent à prendre sens quand ils s'apprêtent à dire « je t'aime ». Et on est dans un monde, finalement, où on sent que la seule rédemption, finalement... Ça sera l'amour, finalement. Et à un moment donné, un personnage, on lui demande si elle connaît un autre personnage. Elle dit oui, très bien, c'est ma sœur, c'est mon frère. Comment il s'appelle? C'est mon frère, mais vous ne connaissez pas son nom? Non, mais c'est mon frère dans la foi. Voilà. Parce qu'elle est là, parce qu'elle l'aime. On ne parle pas du tout de foi, de religion canonique, on parle d'amour et de foi en l'autre, en la possibilité de le rejoindre par les mots, et puis un peu plus si affinité, quoi, voilà.
Didier.
Oui, moi j'acquiesce, film formidable également. Coris Maki avait dit il y a quelques années qu'il ne tournerait plus jamais, on était triste, et là il revient. Moi j'ai presque l'impression que c'est son chant du cygne, c'est presque un film testament, parce qu'on retrouve absolument toutes ces thématiques
Alors, tu as beaucoup parlé du monde du travail, qui est vraiment représenté ici exactement comme tu l'as décrit, mais c'est aussi un film sur les rencontres, sur l'amour, enfin tout ce que Coris Maki met depuis toujours dans ses films, les gens de peu, voilà, les gens de peu, mais qui peuvent beaucoup en même temps, énormément, les uns par rapport aux autres. On retrouve tout ce qu'il aime filmer, c'est les rencontres. Moi, ça m'a fait penser au vieux Ferré, hein, le Richard. Les gens, on ne les connaît bien qu'à certaines heures de la nuit, à tabler à un comptoir, à couder à un comptoir. Voilà. Bah, Coris Maki, c'est un petit peu ça.
Ne rentre pas tard ce soir.
Voilà.
Quelque chose comme ça. Ouais.
Bon. Et donc la vie n'est pas drôle chez Coris Maki, mais il y a toujours des lueurs d'espoir et il y a toujours de l'espoir et il y a énormément d'humour. Il y a énormément d'humour dans le film, c'est-à-dire que ça pourrait être complètement plombant, mais pas du tout, du tout, du tout. Et il arrive avec sans aucun dialogue, avec juste des petites séquences. Juste un petit détail, les personnages se rencontrent et se perdent. Donc comment faire pour se retrouver ? Donc lui revient dans leur lieu de rencontre tous les soirs et il fume.
En face du cinéma.
Voilà, et elle revient et elle sait qu'il est passé là parce qu'il y a des mégots par terre. Mmh. Là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il y a en quatre plans. Il raconte des choses d'une façon incroyable.
Mais justement, c'est au-delà du réalisme, il me semble.
Oui.
C'est vraiment des scènes... Et peut-être les personnages... Effectivement, il y a une sorte de fraternité, presque, chez certains personnages.
C'est exactement ça.
Mais elle naît là où il y a peut-être un côté archétypal, mais qui peut être dans le bon sens du terme... ou pas, c'est que effectivement les bons sont bons et solidaires et fraternels, les mauvais, il n'y a rien à tirer.
Non, d'ailleurs on les voit très peu,
ils sont évincés très vite. Ils sont monolithiques, absolument
voilà,
monolithiques.
C'est posé.
En fait, on ne parle pas de ces gens-là, on parle de...
Et puis alors, il y a quelque chose de particulier dans ce film, c'est pour ça que j'ai un peu l'impression que c'est un film testament, c'est le rapport à l'alcool. On sait aussi comment Coris Maki était tombé là-dedans et tout. Donc, est-ce que lui-même a fait une cure de désintox ? On ne sait pas. Et puis, ce n'est pas grave, mais c'est très, très présent dans le film. Donc, en résumé, je dirais que c'est... Alors, s'il y a une chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est les lumières et les cadres. Il n'y a pas un cadre, il n'y a pas un plan qui est moyen. C'est parfait
nickel.
À chaque fois, c'est nickel dans des lumières. Qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est vraiment les films de Coris Maki. Donc, en résumé, on pourrait dire la chanson, bar glauque, alcool, monde du travail, mélancolie, humour, les chiens errants qu'on retrouve dans tous les films de Coris Maki aussi. C'est formidable, ça.
Il ne faut pas trop en dire.
Non, les rencontres de hasard et la noblesse des personnages. Tous les thèmes de Coris Maki reviennent là, dans ce qui est peut-être, enfin pour moi, peut-être son meilleur film, en tout cas un des meilleurs.
Les Feuilles mortes d'Aki Coris Maki, donc à voir à Aubenas. À la médiathèque aussi, si ça vous tente, vous pouvez revoir des films d'Aki Coris Maki. Il y a L'autre côté de l'espoir et L'homme sans passé qui sont disponibles. Allez, on décolle pour autre chose.
Vous voulez toujours sur 777 ?
Oui.
Commandant de bord, le courrier depuis 2 ans.
C'est bien ça ?
Toi, comment tu vas ?
Je suis bien contente d'être sur Terre un peu.
Vous dormez correctement en escale ?
Oui. Left fuel cut off, confirm.
Vous récupérez facilement ?
C-40 knots.
Correct.
Oui, j'adore ce style de vie.
Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle ?
Non.
Bonjour, Estelle.
Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, elle a tout ravagé et elle a foutu le camp.
Je sais pas comment font les gens.
Pour oublier ? La plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenirs et ils ferment à clé.
Alors, que faire de ces souvenirs coincés dans des tiroirs que l'on ferme à clé ? Vision de Yann Gozlan avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz.
Alors, un film un peu moins arrêté, mais quand même un petit peu. C'est un film qui n'a pas trouvé son public, bien dommage. Et moi j'ai été bluffé, je suis allé le voir sans savoir ce que je veux voir.
Ouais.
Et on reste jusqu'à la fin. sans fin. C'est extraordinaire. Il y a un montage vidéo sur ce film-là qui est exceptionnel. Les musiques sont nickel, en fait, très angoissantes quand même, parce que c'est un film, un thriller quand même. Une histoire assez... c'est un crime passionnel, en fait. En gros, c'est prenant jusqu'au bout. On va pas tout dévoiler.
Non, ne dévoile même mais rien
on,
du
on,
tout.
On le comprend assez rapidement.
Parce que donc Yann Gozlan, c'est lui qui avait fait Boîte Noire, c'est ça. On l'avait vu. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film. C'était très très prenant sur.
Oui, d'ailleurs, c'est dans la même lancée que Boîte Noire. Hein, c'est les mêmes ambiances. C'est très ressemblant. Mais bon, Boîte Noire a quand même eu un grand succès. Celui-là n'a pas trouvé son public, c'est bien dommage. Et même les critiques ils ont dit que c'était un film moyen, alors qu'il y a quelque chose. Hein, à chaque moment, on se dit « Ah, ça y est, j'ai compris !» Et puis on ne comprend rien du tout. Hein, et jusqu'au bout, quoi, ça fait plaisir des films comme ça. Hein.
C'est peut-être justement un film à tiroir, ou en tout cas à poupée russe, quoi.
Oui, exactement.
Voilà, qui décline. Alors, tu parles des critiques. Moi, justement, il y a des critiques qui sont très dithyrambiques, qui disent...
Ah bon ?
Oui, il y en a quelques-unes. Ils disent que c'est une expérience sensorielle vertigineuse, que Gozlan est un maître du suspense. Et puis, à l'inverse, j'en ai trouvé pas mal, effectivement, mais qui disent que c'est un film d'épate, qui n'est pas ni original, ni vraisemblable.
Et puis
qu'on ne
s'y retrouve pas, je ne sais pas, j'ai lu des choses comme ça.
Après, c'est intéressant aussi. Toutes les qualités des uns, c'est le défaut pour les autres.
C'est pour ça que je tenais à signaler. Ce n'est pas forcément gris. Il y a des critiques qui l'encensent et d'autres vraiment qui...
Le jeu de Mathieu Kassovitz, qui est assez particulier, on a l'impression que ce n'est pas très bon. Et au fur et à mesure, on comprend. C'est un peu comme dans Coupé. C'est bizarre au début, c'est mauvais. Et en fait, après, on comprend pourquoi. Ça fait partie de son personnage.
Tout fait sens, en fait. C'est un puzzle qui prend forme
complètement,
au fur et à mesure du film.
Vraiment, voilà, si vous avez envie de passer un moment un peu angoissant, mais surprenant, ben, voilà, allez voir Vision.
Les amateurs de l'angoisse.
Vision de Yann Gozlan, donc, c'est à voir à Aubenas, mais aussi Auteuil et à Cruas. Et pareil, il y a d'autres films à la médiathèque d'Aubenas. Vous pouvez revoir Boîte Noire et Un homme idéal aussi, son précédent film de 2015. Sans bande-annonce, mais on peut dire un mot du livre des solutions que nous sommes nombreux à être allés voir. Le livre des solutions.
J'ai un petit mot rapide. Oui. Donc c'est un film que j'ai été voir sans préjugés, qui m'a énormément séduit. Comme m'avait séduit Soyez sympa, Rembobiner, là, 2008. Et les deux films sont des films, à mon avis, sur les films. C'est-à-dire, c'est la passion du film. Et puis derrière la passion du film à fabriquer, hein, avec tout l'atelier, les bancs de montage qui passent d'une camionnette à une bâtisse en moitié en ruine, etc. Bon, enfin bref, une espèce de goût de montrer le film comme objet s'élaborant laborieusement, c'est le moins qu'on puisse dire en l'occurrence, et puis d'un autre côté, et au-delà, je dirais, de l'amour du film, l'amour du cinéma, avec une petite projection à un moment donné, avec aussi la présentation du film, on peut supposer à un grand festival, etc. Donc voilà, le goût du film et le goût du cinéma extrêmement bien mis en scène à mon goût, quoi.
Et tout ça dans à un moment bien précis, justement, de bipolarité, parce que c'est aussi un film là-dessus.
Oui, moi je sais pas trop quoi en penser. Et puis j'ai une histoire avec ce film parce que bon, c'est presque un documentaire. Hein, on est dans la réalité. Michel Gondry a véritablement une tante dans un petit village du Gard
qui s'appelle Suzette,
à laquelle il a consacré un film qui est absolument un documentaire merveilleux où on voit qu'il organise également des projections dans ce petit village du Gard, enfin, etc.
L'épine dans le cœur.
Et donc ce que le film raconte, en fait, c'est le montage de L'écume des jours, son précédent film, qui a effectivement eu lieu dans ce petit village, dans une grange, sans chauffage, etc. Et cette année-là, Michel Gondry devait venir aux Rencontres des cinémas d'Europe à Aubenas pour un hommage. On avait programmé 4, 5, 6 films, je ne sais plus, enfin un nombre certain. Et en fait, il nous a trimballé toute la semaine. Et maintenant, je comprends. Pour au tout dernier moment, dire « bah non, je ne viendrai pas », etc.
avec des excuses un peu bizarres, fallacieuses. Et puis maintenant, je me dis, c'est peut-être pas plus mal, parce que vu comment l'homme est incontrôlable, voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Et après, le film est plaisant, mais quelque part, tu vois, moi, je suis un peu plus, je me dis, mais à quoi ça sert ? J'ai presque l'impression que c'est une psychanalyse, une autopsychanalyse. Bon, voilà, je me suis pas ennuyé, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'en suis sorti un peu comme j'y étais entré, quoi. Pour moi, c'est loin d'être un des meilleurs Gondry.
D'accord, il avait besoin de faire ce film, sans doute pour aussi peut-être se faire pardonner ou pour expliquer ses...
Mais pour le néophyte, il y a un intérêt basique à
alors,
voir.
Il y a quand même quelque chose, si je peux me permettre, c'est que il y a une idée qui est une très très bonne idée, je trouve, c'est d'avoir fait jouer la tante de Nice par Françoise Lebrun, dont se souvient peut-être qu'elle était l'une des deux amantes de Jean-Pierre Léaud dans La Maman et La Putain. Ça m'a beaucoup ému.
Le livre des solutions de Michel Gondry, qui est à voir, je ne sais pas où, si à Ruyons et à Aubenas, et mercredi à Vals-les-Bains. Il nous reste peu de temps. On peut dire un mot de deux films, mais très rapide. Il y a Vers un avenir radieux de Nanni Moretti, donc, qui est diffusé à Tueil mardi à 20h30. Un mot sur ce film ?
Didier, tu l'as vu aussi, toi ? Mais,
oui, oui.
Ouais, mais alors, moi, c'est un film de Nanni Moretti, donc cinéaste italien qui n'est pas à son premier coup d'essai, on va dire, puisqu'il a eu quand même la Palme d'Or avec La Chambre du Fils. Et là, il revient avec un film que moi, j'ai précédé au précédent. Voilà, et qui c'est un film sur le cinéma aussi, hein. On en parlait déjà dans cette émission, mais c'est un hommage au cinéma, je pense, et à la fois à une certaine époque, puisqu'il filme un film dans le film, du coup ça se passe sur un tournage, c'est quelqu'un qui fait son dernier film et il arrive en fin de carrière, et donc du coup son couple part à volo, ses relations, sa fille s'en va, il est très malheureux, mais il continue vaille que vaille à...
Et est-ce que tu le conseilles, ce film ?
Ah bah oui, tout à fait, oui, on retrouve tout l'humour de Nanni Moretti qui est tout au long du film, puis la façon de filmer, c'est un excellent cinéaste, Nanni Moretti, donc c'est un vrai plaisir, c'est comme si on prenait les charentaises et qu'on se mettait bien dans son fauteuil, et là, on est rarement déçu, en fait, par cette qualité-là chez Nanni Moretti, quoi. Il y a un vrai respect pour le spectateur, et c'est un plaisir.
Oui, je vais être très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un excellent film. Et pour moi, c'est un des meilleurs Nanni Moretti depuis longtemps. Je trouvais que c'était un petit peu perdu. Et alors là, ce n'est pas un film testament, mais je pense que c'est un film un peu bilan. Et il y a également beaucoup d'humour, réflexion sur le cinéma, tout ce que tu as dit, Julien. Donc si, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça vaut la peine de faire le déplacement.
Super. On dira peut-être un mot la fois prochaine de L'Arbre au papillon d'or, ou tu veux en parler maintenant s'il est à l'affiche à Privas.
C'est difficile d'en parler en deux mots, donc voilà. Gardons-le pour la semaine prochaine.
Merci beaucoup. À noter quand même, donc, je vous rappelle deux rendez-vous cinéma ce week-end, c'est les rencontres Cévenol de Rosière, qui se termineront par Simple comme Sylvain, que tu as vu, Julien.
Très beau film.
Très beau film, voilà. Donc ça, ce sera dimanche soir, la fin du festival. On a parlé de ce festival déjà plusieurs reprises pendant la semaine, et puis le festival du cinéma en Vivarais est du 2 au 8 octobre, qui va avoir lieu dans plusieurs lieux. Il avait un festival qu'il a fallu reconfigurer, puisque bien sûr les Vents ne peuvent plus diffuser de films, projeter de films. Donc vous pouvez réécouter l'émission, ou mieux aller sur le site du festival cinéma en Vivarais. En tout cas, ça va parler de films. Bon week-end à toutes et à tous. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'être venu.
Bon week-end.
Au revoir.
Merci Nico, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un Cinémascope.